Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de la détermination des nouveaux ratios d'avancement de grade pour les agents municipaux. Alors là aussi, je vais faire le lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir les lignes directrices de gestion. Désormais, ces lignes directrices de gestion ont été adaptées par notre collectivité. Et il y a 4 ans déjà, en 2017, nous avions pris une première délibération pour accroître les ratios d'avancement de grade des agents municipaux. La délibération qui vous est soumise ce soir consiste à poursuivre cette ouverture pour offrir un meilleur développement de carrière à nos agents. Il est ainsi prévu dans les lignes directrices de gestion l'augmentation progressive des ratios d'avancement de grade pour les agents de catégorie C et l'intégration des dernières évolutions statutaires pour certaines filières, en particulier la filière sociale. Le tableau qui est joint à la délibération vous permettra de faire poste par poste, catégorie par catégorie, une comparaison avant-après. Vous vous apercevrez que dans un certain nombre de catégories et de grades, il n'existait pas de degré d'ouverture d'avancement des ratios avant la délibération que nous prenons ce soir. La délibération qui vous est proposée permet précisément d'offrir de meilleures perspectives de développement de carrière à nos agents. Sur un certain nombre de postes et de grades, c'est un taux de 100% d'avancement qui vous est proposé. Et sur de nombreuses autres catégories, vous verrez qu'une ouverture progressive est proposée. 40% en 2021, puis 50% en 2022, par exemple pour les agents de la filière sportive. Je dois préciser à nos collègues, monsieur le maire, que ces évolutions ont été proposées la semaine dernière en comité technique et que les représentants du personnel, monsieur Gerbet, vous êtes également présent, ont dit leur satisfaction de voir ces ratios favorablement évoluer. C'est un message fort que nous souhaitons envoyer. C'est un message qui s'inscrit dans les lignes directrices de gestion. Et un agent qui arriverait aujourd'hui à la mairie de Tarbes doit savoir que sur la poursuite de sa carrière, il existe des perspectives réelles d'avancement et d'évolution. Dès lors, il vous est proposé, après avis favorable de la commission Finances et sur avis du comité technique du 5 novembre, d'adopter ces nouveaux ratios d'avancement de grade conformément au tableau détaillé par catégorie, filière et grade qui a été joué à la délibération et d'appliquer les deux règles suivantes. Lorsque l'application du ratio sur le nombre de promouvables donnera un résultat qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé sera arrondi à l'entier supérieur. Et lorsque l'application du ratio n'aura pas permis de prononcer quelque avancement que ce soit dans un grade pendant une période de 2 ans, un fonctionnaire pourra être inscrit au tableau d'avancement de ce grade. C'est dire que même sur les deux précisions, les deux correctifs que nous apportons à la règle générale, ces correctifs sont aussi favorables aux agents sur les deux points. Voilà, monsieur le maire, ce qu'il en est de cette proposition.
Merci, monsieur Giral. J'en profite pour vous remercier pour votre engagement tout à fait remarquable. Certes, sur les finances, mais aussi sur les relations avec le personnel et les représentants du personnel, avec Jean-Luc Cossou et avec l'ensemble des cadres de notre municipalité. Je vous remercie pour votre engagement et pour la façon dont cet engagement s'effectue, c'est-à-dire rien à voir avec moi. Calme, paisible, tranquille, c'est très bien, je vous félicite. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Giral ? Non ? Monsieur Charles, non ? Non ? Vous êtes satisfait de ces propositions ? Oui ? Bon, ok. Pas de questions particulières ?
Je m'étais exprimé en commission finance déjà, il n'y a pas de problème.
Oui, tout à fait.
Bien, parfait, merci. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? On note l'abstention de monsieur Cavaillès. Je pense que ses collègues seront contents. Tous ceux qui vont bénéficier de ce dispositif seront contents de savoir qu'il y était opposé. Bien, nous passons au point suivant. Monsieur Ross.
Merci, monsieur le maire. La collecte et le traitement des déchets produits par d'autres producteurs que les ménages ne sont pas obligatoires, mais le CIMAD peut, selon ses prescriptions, en assurer l'élimination. Cela donne lieu à un financement spécifique de la part de ces producteurs. la redevance spéciale pour les administrations qui ne s'acquittent pas de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les tarifs indiqués dans le projet de délibération sont maintenus pour 2021. La convention est proposée pour une durée de 3 ans, mais les tarifs peuvent être réévalués par le comité syndical du CIMAT tous les ans. Sur avis favorable de la commission administration générale, finances, ressources humaines et commandes publiques du 2 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer avec le CIMAT une nouvelle convention de redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères.
Merci, monsieur le rapporteur. Avez-vous des questions à poser ? Non ? Ah bon ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Parfait. Proposition adoptée. Le point suivant, madame Lafourcade.
Oui. Création. Merci, monsieur le maire. Création d'un réseau intranet pour les agents de la collectivité, demande de subvention. La ville de Tarbes a décidé de se doter d'un intranet dont l'objectif principal est de donner accès au numérique, à l'information interne et à la gestion de documents dématérialisés à tous ses agents. Cet intranet, accessible depuis chaque poste de travail, mais aussi via un extranet disponible sur tablette et smartphone, sera mis en œuvre en septembre 2022. Le déploiement de cet outil va contribuer largement à l'acquisition et au développement de compétences des agents de la collectivité, ce qui garantira ainsi un meilleur service rendu à la population. L'État a lancé un appel à projet dans le cadre du dispositif France Relance en faveur de la transformation numérique des collectivités. Ce projet, d'un coût estimé à 50 000 euros, est susceptible d'être éligible dans ce cadre. Un dossier de demande de subvention a donc été déposé selon le plan de financement proposé dans le projet de délibération. Sur avis favorable de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et commandes publiques du 2 novembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de création d'un réseau intranet et son plan de financement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter les financements décrits, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte utile.
Merci, Madame le rapporteur. Avez-vous des questions à poser ? Pas de questions. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Dacosta.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du point numéro 15 concernant une demande de subvention pour l'application mobile de la collectivité visant à favoriser la relation à l'usager. La ville de Tarbes a souhaité renforcer sa relation aux citoyens avec une application mobile téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette. Elle offrira des services variés aux habitants de manière simple et intuitive. L'objectif principal de cet outil est de garantir une meilleure diffusion de l'information et de l'actualité de la collectivité tout en facilitant le parcours d'accès à de nombreuses démarches. Des informations urgentes et importantes pourront être, si nécessaire, diffusées en temps réel par simple notification. Cet outil permettra également aux usagers de signaler à la collectivité toute anomalie sur le domaine et les biens publics. Une fonctionnalité de concertation citoyenne sera également utilisée par la collectivité afin de recueillir les avis des habitants sur tout type de sujet. Cette application sera personnalisable par chaque utilisateur en fonction de ses besoins. L'État a lancé un appel à projet dans le cadre du dispositif France Relance en faveur de la transformation numérique des collectivités. Ce projet, d'un coût estimé à 25 000 euros, est susceptible d'être éligible dans ce cadre. Un dossier de demande de subvention a donc été déposé selon le plan de financement décrit dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Sur avis favorable de la commission administration générale, finances, ressources humaines et commandes publiques du 2 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de mise en place d'une application mobile et son plan de financement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à solliciter les financements décrits et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte utile.
Merci beaucoup, Monsieur Dacosta. Avez-vous des questions à poser sur cette délibération ? Madame Calais, je vous en prie.
Merci, Monsieur le maire. Donc, vous parlez d'une fonctionnalité de concertation citoyenne sur cet outil, utilisé afin de recueillir les avis des habitants sur tout type de sujet. Cela reste bien vague. Pouvez-vous préciser Et pour ceux qui ne posséderont pas cet outil, comment sera organisée leur participation?
Moi, je serais ravi de répondre.
Ah voilà, je te cherchais.
Merci, monsieur le maire.
Kevin Jourdan.
Donc, en fait, cette fonctionnalité va nous permettre de créer des sondages, nous permettre de proposer aux citoyens également de proposer des projets. Elle aura tout un tas de fonctionnalités qui seront ouvertes à tous et qui pourront, on pourra faire voter des projets, on pourra faire vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui n'auraient pas l'application mobile, c'est pas un problème. On a fait en sorte de pouvoir le dupliquer également sur l'informatique, sur Internet. Donc on pourra aussi se connecter à cet outil de concertation citoyenne via un ordinateur ou une tablette. On n'est pas obligé d'avoir l'application pour participer à cette concertation citoyenne. Voilà. Alors oui, ma réponse peut paraître vague au niveau des fonctionnalités. Je ne rentre pas encore dans le détail absolument. En fait, il faut imaginer que cette application elle a une soixantaine de fonctionnalités et je ne les connais pas toutes parfaitement par cœur.
Non, mais ce n'est pas tant les fonctionnalités que les sujets, parce que c'est une véritable question.
En principe, quand on prend la parole, on la demande.
Pardon,
je vous la donne, madame, volontiers.
Excusez-moi.
Je vous la donne volontiers, allez-y.
Je parlais donc non pas de fonctionnalités, mais de sujets. Enfin, nous parlions donc, parce que c'est vraiment très important. Enfin, la concertation citoyenne, c'est d'abord l'objectif. Bien sûr, il faut un outil, mais ça, c'est d'abord l'objectif et sa construction. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et effectivement, ne pas rester à côté, parce que même si ce n'est pas une application, si c'est sur un ordinateur, voilà, on sait bien, hein, on a parlé, et Madame Doubrère l'a souligné, hein, de la fracture numérique. Donc, il faudra vraiment être attentif, mais c'est une bonne nouvelle.
Je suis ravi que ce soit une bonne nouvelle. Déjà, merci beaucoup. Et les sujets qui seront évoqués sur cette application sont des sujets d'aménagement de la ville, des sujets en lien avec la vie des citoyens au quotidien. Et c'est les mêmes sujets que ceux dont on débat aujourd'hui et à peu près une fois par mois en conseil municipal. Tous les sujets dont on débat également au cours des commissions.
Mais vos remarques seront les bienvenues, madame.
Tout à fait.
Monsieur Dagdag.
Oui, merci, monsieur le maire. Juste une question. Je suis très étonné, moi, du nombre de fonctionnalités par rapport au coût. Alors, je ne sais pas si on a déjà identifié une application et si la mise en place du paramétrage va être facile. Mais je suis assez étonné du faible coût par rapport à l'ensemble des fonctionnalités qu'on a évoquées. Et pour revenir juste sur la concertation citoyenne, comment va-t-on garantir que ce sont bien des citoyens qui votent, etc. quoi. Voilà.
Merci, Kevin.
Oui, alors au niveau des fonctionnalités et du coût, en fait, il faut imaginer que les développeurs qui ont créé ces applications...
Parle bien dans le micro, Kevin.
Il faut imaginer que les développeurs qui ont créé ces applications ne l'ont pas fait que dans le but d'équiper une seule mairie, mais bien un maximum de mairies en France. Donc en fait, au fur et à mesure qu'ils équipent des mairies, ils analysent des besoins qu'on peut avoir, qu'on a tous, et finalement, on développe des fonctionnalités qu'ils déploient au fur et à mesure pour les différentes mairies. C'est pour ça que le coût n'est pas élevé, c'est parce qu'en fait, ce coût, il est, entre guillemets, mutualisé par tous les clients de ces développeurs de logiciels.
C'est le coût de base. Et ensuite, il peut y avoir des évolutions en fonction de fonctionnalités.
Tout à fait. Et nous avons identifié certains fournisseurs de logiciels, pas encore sélectionnés, par contre. Et ils proposent, pour la plupart, la même chose. C'est un socle commun de fonctionnalités. Et ensuite, la possibilité d'aller chercher des fonctionnalités supplémentaires ou de demander le développement d'une fonctionnalité supplémentaire. Et s'ils jugent que ça peut leur servir pour d'autres villes, ils le feront dans le cadre du budget qui a été indiqué. Voilà.
Madame.
Oui, je voulais savoir du coup si cet outil pourrait servir pour, évidemment, la démocratie participative.
Kevin.
C'est tout le sujet de la concertation citoyenne.
D'accord.
Et de faire cette démocratie participative aussi au travers de cet outil et au-delà aussi des réunions de quartier où on va retrouver souvent les mêmes personnes. Grâce à l'application, on va donner accès à plus de monde et aussi à une autre tranche de la population, une autre tranche d'âge, j'entends, à cette concertation citoyenne et cette participation.
Je vous en prie, madame.
Mais cette concertation pour les personnes justement qui sont dans la fracture numérique, comment est-ce qu'on va faire pour justement pallier à cette problématique? Est-ce qu'on va utiliser peut-être le Tarbemag avec des coupons? Comment faire?
L'idée, L'idée, elle est là. C'est, enfin, l'application, c'est pour aller chercher plus de monde. Aujourd'hui, on a du monde qui participe au travers des réunions de quartier en physique. Demain, on met à disposition un outil informatique, une application, un site internet qui vont permettre à plus de gens, les gens qui n'ont pas de mobilité, les gens qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément envie d'aller dans ces réunions et qui vont pouvoir participer rapidement. Et du coup, finalement, ben, on ouvre cette démocratie participative à plus de monde parce qu'on a ce nouvel outil.
C'est une très bonne nouvelle. Je m'en réjouis. Mais c'est juste que, voilà, par rapport aux personnes qui sont dans la fracture numérique, effectivement, il faudra peut-être trouver quand même une solution parce que les réunions de quartier ne suffiront pas, notamment pour des votes.
Bien sûr. Alors après, on a aussi des solutions.
On peut arrêter le dialogue, là, s'il vous plaît.
Pardon ?
Le conseil municipal, ce n'est pas un dialogue. Vous avez une question, vous répondez, mais allez-y, répondez là.
Pour la fracture numérique, on est en train de mettre en place un espace dédié à ça, justement, avec des agents de la mairie qui accompagnent les citoyens pour avoir accès à l'informatique. Voilà.
Très bien.
Merci.
On peut préciser qu'on a perdu du temps à cause de la crise sanitaire. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, il y a plus d'un an et demi que ça aurait été fait. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Elle est adoptée. Merci. Le point suivant, Madame Beltran.
Merci, Monsieur le maire. Et je vous présente mes excuses pour mon retard.
Pas de problème.
Merci. Il s'agit de l'étude pour la mise en place d'une gestion de la relation usager, GRU, et d'en faire la demande pour une subvention. La ville de Tarbes souhaite engager une réflexion pour mettre en place une gestion de la relation usager, c'est-à-dire la mise en œuvre d'outils permettant d'optimiser, via le numérique, le traitement des demandes des usagers vers la collectivité. L'étude devra identifier les différents canaux à mettre en œuvre en s'appuyant sur les solutions numériques et répondre ainsi aux nouveaux usagers et attentes. Le programme doit amener toutes les parties prenantes, usagers, agents et élus. Une phase d'évaluation préalable est donc nécessaire. La co-construction doit également favoriser l'adhésion de tous à ce programme de transformation de la collectivité. L'État a lancé un appel à projet. Un projet dans le cadre du dispositif France Relance en faveur de la transformation numérique des collectivités. Ce projet d'un coût estimé à 29 100 euros est susceptible d'être éligible dans ce cadre. Un dossier de demande de subvention a donc été déposé selon le plan de financement détaillé dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Sur avis favorable de la commission finance du 2 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'étude pour la mise en place d'une gestion de la relation usager et de son plan de financement, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter les financements décrits et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte utile.
Merci madame Beltran, avez-vous des questions à poser ? Madame Calais, je vous en prie.
Merci, monsieur le maire. Donc, un peu dans la même veine, dématérialiser pour faciliter les démarches paraît vertueux, mais compte tenu de la population concernée par les services publics, cela exige aussi d'être prudent et de ne pas insidieusement limiter les relations humaines. Cela serait délétère pour les usagers, mais aussi pour les agents. Ainsi, vous parlez bien sûr de transformation numérique de la collectivité, ça il le faut. Mais nous aimerions savoir quelles sont les missions ciblées et pour quel objectif, quelles sont les attentes par rapport à cette étude, des préconisations ou des applications. Merci.
Merci, madame. Oui, effectivement, vous avez raison. Il faut éviter qu'il y ait des personnes qui soient totalement isolées et encore plus isolées parce qu'elles ne disposeront pas d'outils. Kevin ?
Donc, ben, c'est sûr que l'objectif, ce n'est pas d'isoler les personnes. On revient encore à cette fracture numérique. Je crois que c'est un sujet récurrent que j'ai chaque fois que je parle de numérique. On ne va pas supprimer les démarches en physique. On vient juste rajouter un outil qui va permettre aux personnes qui ne souhaitent pas se déplacer de gagner du temps dans le cadre de toutes les démarches qu'on peut faire en mairie. L'objectif réel, c'est vraiment de permettre aux citoyens de faire ces démarches également en ligne. Donc toutes les démarches qu'on peut vivre aujourd'hui en mairie, comme par exemple une demande de pièce d'identité, par exemple, pourront également être dématérialisées. Et cet espace numérique pour ceux qui l'utiliseront, permettra de stocker aussi ces documents officiels, etc., pour gagner de plus en plus de temps dans les prochaines démarches. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va supprimer l'accueil physique des personnes. On continuera à faire ça. Mais le vrai avantage aussi de cet outil, il est à destination des agents de la mairie. Il y a une plus-value pour les citoyens, mais il y a aussi une plus-value pour les agents. C'est-à-dire que ces agents, ils vont pouvoir mieux gérer les dossiers qu'ils ont à traiter. Ils auront une visibilité globale sur tous les dossiers qu'ils ont à gérer. Et il y aura moins de ratés, peut-être, plus de facilité dans la gestion. Et ce sera plus rapide pour tout le monde et plus simple.
Excellent. Merci, M. Jourdan. D'autres questions ? Non ? Y a-t-il des abstentions sur cette proposition ? Des votes contre ? Elle est adoptée. Merci. M. Craspaille, point suivant.
Merci, Monsieur le maire. Je vais vous proposer une délibération qui va faire date dans le budget. Alors, la Société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'HLM des Hautes-Pyrénées a sollicité la commune de Tarbes afin qu'elle puisse prendre une participation au sein de la société. En effet, la Société anonyme coopérative d'HLM des Hautes-Pyrénées souhaite que la commune puisse intégrer le collège collectivité publique et leur groupement, moyennant la souscription d'une action au prix de 15 euros. Cette démarche s'inscrit dans un projet coopératif qui s'attache à assurer le plus large accès possible au meilleur de l'habitat pour tous sur le territoire de la région Occitanie et les départements limitrophes en partenariat avec les collectivités territoriales. Plus précisément, le plan stratégique de la société prévoit un développement sur l'axe Bayonne-Pau-Tarbes-Toulouse. La ville de Tarbes étant située au milieu de cet axe. Sur avis favorable de la commission finances du 2 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver la souscription d'une part sociale au prix de 15 euros de la Société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'HLM des Hautes-Pyrénées, d'adopter les statuts de la Société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'HLM des Hautes-Pyrénées que vous avez dans la délibération, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte utile.
Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions ? Non ? Des abstentions ? Des oppositions ? Proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Giral.
Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit du rapport annuel d'exécution du délégataire pour l'exploitation du parc de stationnement Verdun. Alors, vous vous en souvenez, ce parc de stationnement Verdun a fait l'objet d'une convention de concession depuis l'année 1990 avec la société SPS Tarbes à l'époque pour une durée de 30 ans. Et chaque année, notre collectivité est amenée à prendre acte du rapport d'exploitation qui est présenté par le délégataire. D'une année sur l'autre, il y a beaucoup de constantes dans les observations qui sont présentées par le délégataire. Mais il faut bien reconnaître que cette année, puisque nous parlons de l'exploitation sur l'année 2020, il y a naturellement une donnée importante qui tient à la chute très marquée de fréquentation du parking du fait des périodes successives de confinement que nous avons connues. Alors, sans rentrer dans le détail exhaustif des tableaux qui ont été joints à la délibération, il faut retenir ce chiffre d'une baisse de fréquentation de 28% en 2020 par rapport à l'année 2019. À cela, deux raisons essentielles. D'une première part, la baisse de fréquentation générale de nos commerces, de notre centre-ville à l'occasion du confinement. Mais aussi, il faut le dire, le choix qui avait été fait par la collectivité d'offrir à ce moment-là le stationnement gratuit en surface, ce qui a pu aussi contribuer à marquer de façon plus prononcée la baisse de fréquentation de ce parking. Voilà les grandes observations qui ont été présentées par le délégataire, avec peut-être une précision qui a son importance, Monsieur le maire, c'est que ce rapport d'exploitation est l'un des derniers que nous avons examiné, dans la mesure précisément où la convention qui avait été passée pour 30 ans arrive désormais à expiration. Voilà, il vous est proposé de prendre acte de ce rapport. Il n'y a pas de vote. Il s'agit simplement de prendre acte des observations du délégataire au titre de l'année 2020.
C'est un des derniers, peut-être, car rien n'empêchera le gestionnaire actuel de postuler demain à une éventuelle délégation si nous décidons de organiser la dite délégation. On verra. Y a-t-il des questions ? Non ? Pas d'opposition, pas d'abstention ? Proposition adoptée. Point suivant, Madame Doubrère.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Je vais donc vous présenter le rapport annuel de la politique de la ville 2020. Alors, vous avez tous un document. Ça va être une présentation synthétique et illustrée d'actions. Alors, on voit là le cadre national et local, la situation des quartiers prioritaires politiques de la ville au sein de la communauté d'agglomération TLP. 2020, donc, une année exceptionnelle du fait de la crise sanitaire et la politique de la ville, une compétence transversale au sein de la communauté d'agglomération. Le cadre réglementaire en matière de politique de la ville, une compétence obligatoire des EPCI, un contrat stratégique global, le contrat de ville 2015-2022, et 1500 quartiers prioritaires en France et des quartiers en veille. La déclinaison locale, une mise en œuvre de la compétence politique de la ville déléguée au GIP par la communauté d'agglomération. Alors, je rappelle que le GIP est composé de l'État, de la communauté d'agglomération, du département, pour lequel c'est une politique volontariste, et de la CAF. Nous avons donc 4 QPV, 3 à Tarbes, 1 à Lourdes, 2 quartiers en veille active, 1 à Lourdes et 1 à Aurillan. La situation des QPV au sein de la TLP, on peut passer au suivant. Un enjeu de solidarité territoriale, 10 000 habitants, 4,5% de la population du département, 8% de la CATLP, 17,5% de Tarbes, 16% de Lourdes, 6,6% d'Aurillan. Des revenus fiscaux mensuels médians, inférieurs de 500 à 1000 euros à ceux de la TLP, 90% du logement social de la CATLP situé à Tarbes, Lourdes et Aurillan, 12,5% des bénéficiaires du RSA du département, familles monoparentales, 24,8% à Tarbes, 21,8% à Lourdes, 16,5% sur la communauté d'agglomération. Je disais donc 2020, une année exceptionnelle du fait de la crise sanitaire. Une mobilisation forte pour s'adapter aux difficultés liées à cette crise. Un raccrochage scolaire et numérique, un suivi renforcé de 400 enfants, 150 ordinateurs ont été distribués aux familles, une présence en première ligne des médiateurs éducateurs et des référents du programme de réussite éducative de notre ville, un fonds de soutien exceptionnel aux associations. Quartier d'été, des propositions exceptionnelles, 36 structures présentes sur les QPV, 800 enfants et jeunes concernés par des actions sur l'espace public, sportive, culturelle, ludique, 11 colos apprenantes, 168 enfants et jeunes des QPV en vacances. Le volet emploi, un enjeu majeur dans ce contexte, les cités de l'emploi, territoire lauréat, aller vers les jeunes dits invisibles, des éducateurs de rue sur tous les quartiers, un truck des jeunes de la mission locale, 200 jeunes ont été repérés, 8 chantiers, premier pas vers l'emploi, dont un avec la communauté d'agglomération. Une participation citoyenne, 6 conseils citoyens, 4 à Tarbes, 2 à Lourdes, 120 habitants impliqués. Il contribue à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des contrats de ville. L'objectif, faire participer et entendre les habitants, souvent très éloignés des institutions. Je disais donc que la politique de la ville, une compétence transversale au sein de TLP. Quelques exemples d'actions menées par les services de la communauté d'agglomération sur les QPV. CitéLab, Service développement économique, Sauvenage par les services de la piscine, l'orchestre à l'école, le conservatoire, chantier premier pas vers l'emploi, service environnement. Pour finir, des actions du lien social, de la culture, du sport, de l'emploi, en images. Donc voilà, en images cité de l'emploi justement action numérique. Chantier premier pas vers l'emploi par l'OPH. Nous sommes là, Mouissé. Également, chantier premier pas vers l'emploi, ça c'est avec le service environnement. Sauvenage, ça c'est un service très important pour nos jeunes enfants, l'apprentissage de la nage. Ensuite, le garage solidaire à Lourdes. L'atelier du cirque Passing sur le quartier de l'Ophite à Lourdes. Une colo apprenante, un conseil citoyen, une résidence de territoire. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et monsieur le maire, si vous me le permettez, je voudrais renouveler tous mes remerciements à l'équipe du GIP, qui est une petite équipe, bien qu'elle se soit étoffée, mais qui fait un travail absolument remarquable sur l'ensemble de nos quartiers. Et je leur redis un grand, grand merci.
Merci, Madame Douvrère. Merci, Madame la Présidente du GIP. Merci également à tous les collaborateurs du GIP et à tous ceux qui siègent à vos côtés pour faire en sorte que tous ces projets se réalisent. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Douvrère ? Madame Calais.
Merci, Monsieur le maire. Vous avez souligné, Madame Douvrère, dans ce rapport, combien les acteurs de la politique de la ville ont su se mobiliser pour apporter une réponse aux habitants pendant cette crise sanitaire. Donc nous espérons qu'ils auront les moyens d'y faire face dans la durée. Une des priorités identifiées est aussi le pilier cadre de vie et renouvellement urbain. Donc, on parlait de quasi-finalisation dans ce rapport, mais aujourd'hui, la convention NPN-RU est signée pour le quartier Bel Air. Nous nous interrogeons sur la possibilité que nous aurions à avoir une présentation de ce projet.
Je répondrai sur ça. Vas-y.
Merci, monsieur le maire. Oui, je n'avais pas précisé. Cette présentation, elle était hors NPNRU. J'aurais dû le préciser au départ. Pardon, monsieur le maire.
Pour ce qui concerne le NPNRU de Bel Air, madame, le projet sera présenté quand il existera. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Il y a une idée avec la démolition de 162 logements, la reconstruction de 140 logements, le réaménagement urbain qui, entre parenthèses, coûtera 7,5 millions à la ville, avec une nouvelle voie, un lien de ce quartier dans l'axe nord-sud et un lien dans l'axe est-ouest. Mais pour l'instant, de projet de construction proprement dit, il n'existe pas encore. Le seul projet que je viens d'évoquer, c'est le seul qui existe aujourd'hui. On sait ce qu'on veut faire, on veut démolir 162 logements, en reconstruire 140, etc. On sait qu'on va refaire une rue, on sait comment on va d'abord construire avant de démolir, on sait tout ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet qu'on peut faire voir. Il y aura un projet qu'on pourra faire voir quand un maître d'œuvre aura été choisi et qu'il aura travaillé à l'élaboration d'un projet pour les bâtiments, les nouveaux bâtiments. Là, ce projet, il sera présenté en premier lieu, bien évidemment, au conseil citoyen, aux riverains, et puis ensuite au conseil municipal, etc. Car c'est un engagement important pour la collectivité. Il n'y a pas donc de projet au sens où on pourrait dire « je veux voir les images, ce que ça donnera demain ». Il n'y en a pas encore. D'autres questions ? Non ? Ah bon ? Bien, nous passons au point suivant. Monsieur Lacabane, pour la commission sécurité.
Merci, monsieur le maire. Création d'un service public local de fourrière automobile. L'activité de fourrière automobile constitue une activité de service public réglementée par le Code de la route qui concourt au respect des règles de stationnement et de circulation sur les voies publiques. À ce titre, le Code de la route permet au maire d'instituer un service public correspondant à cette activité et relevant de son autorité. Le principal intérêt de la création d'un tel service est de faciliter et d'accélérer l'enlèvement de véhicules en infraction, notamment en cas de défaillance des propriétaires, ainsi que des véhicules abandonnés en voie d'épavisation sur le domaine public routier. Il s'agit d'assurer matériellement l'exécution de la décision de mise en fourrière, à savoir l'enlèvement des véhicules à 2, 3 ou 4 roues motorisées, les caravanes, remorques ainsi que poids lourds, la garde de ceux-ci, la restitution et éventuellement la remise à une entreprise chargée de la démolition ou au service des domaines. Jusqu'à présent, devant l'absence d'institutions de services publics locaux sur le département des Hautes-Pyrénées, l'État s'est substitué aux autorités locales compétentes. Désormais, l'ensemble des grandes villes du département est appelé à exercer cette compétence. L'institution de cette activité de service public par la collectivité se justifie d'autant plus que 75% des demandes de mise en fourrière sont exercées par le service de la police municipale de Tarbes. C'est ainsi que le principe de création d'un service public communal de fourrière pour véhicules automobiles répondant aux besoins de la collectivité et conforme aux dispositions légales et réglementaires s'avère indispensable et urgent. La gestion en régie consisterait dans l'exploitation directe par la collectivité du service public. Ce mode de gestion présenterait des inconvénients compte tenu de la nature de l'activité qui requiert une souplesse de gestion, de lourds investissements et une véritable réactivité et technicité dont l'objectif d'assurer un niveau de service optimal. Compte tenu de l'urgence de la mise en place du service, des investissements nécessaires et des contraintes d'exploitation, la création en régie est inenvisageable. Deuxième solution, la concession par délégation de services publics. Il peut être également proposé que l'organisation et la gestion du service public de fourrière municipale fassent l'objet d'une délégation de services publics. Le transfert du risque lié à l'exploitation du service, ainsi que la nécessité de ressources spécialisées dans la gestion d'un service public de fourrière automobile, nécessitant une technicité adaptée, implique pour la commune de Tarbes de recourir à la délégation de services publics pour assurer le fonctionnement du service de fourriériste sur le territoire de la ville. De surcroît, ce type de service public nécessite une organisation et mobilisation importante et de manière globale, une capacité à pouvoir procéder à l'enlèvement de 400 à 600 véhicules par an. Ainsi, au regard des contraintes d'exploitation de ce service, il apparaît que le montage juridique le plus à même de permettre d'aboutir aux résultats recherchés est que la commune confie à un délégataire la gestion de la fourrière automobile et le recours à une entreprise spécialisée bénéficiant de savoir-faire, de moyens adaptés et qui supporte les risques liés à l'exploitation du service. Il convient donc au conseil municipal de se prononcer sur la formule consistant à concéder à un gestionnaire privé, agréé par le préfet, l'organisation du service de fourrière municipale pour automobile après mise en concurrence. Le délégataire devra remplir les conditions d'exercice prévues à l'article R325, alinéa 24 du Code de la route, les caractéristiques de prestations correspondant à la mission d'exécution matérielle de la décision de mise en fourrière, à savoir l'enlèvement ou le déplacement du véhicule, le transport de véhicules, le gardiennage de véhicules, éventuellement la remise du véhicule au service des domaines pour les véhicules non retirés par le propriétaire, éventuellement la remise à une entreprise chargée de la destruction dans les conditions fixées aux articles L325-7 et L328-8 suivant le Code de la route. Le délégataire appliquera les tarifs fixés par l'annexe 2 de l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié. En outre, il pourrait être amené à procéder au déplacement de véhicules en stationnement régulier mais gênant, sans mise en fourrière. Dans ce cas, son intervention donnera lieu au versement d'une somme forfaitaire déterminée dans le cadre de la procédure de passation de la délégation de services publics. Le délégataire devra produire chaque année, conformément aux dispositions du Code de la commande publique, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de qualité du service. La durée de convention serait de 5 ans. Les caractéristiques précises seront fixées au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Sur avis favorable de la Commission Sécurité et Relations Extérieures du 18 octobre 2021, de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 25 octobre 2021, de la Commission Administration Générale Finances, Ressources Humaines et Commandes Publiques du 2 novembre 2021 et sur avis du Comité Technique du 5 novembre 2021, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la création d'un service public local de fourrière automobile, d'approuver la délégation de services publics à une entreprise spécialisée comme mode de gestion, d'autoriser M. le maire à lancer la procédure de DSP et de signer tout document afférent.
Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Rouget, je vous en prie.
Nous déplorons évidemment une fois encore le désengagement de l'État, à plus forte raison d'une mission importante pour la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est une nouvelle contrainte imposée à une collectivité locale. En ce qui concerne ce projet de délégation de services publics qui relève d'une vision dogmatique, bien que vous l'affichiez comme pragmatique, nous nous y opposons. Il est en effet de bon ton depuis des années, voire depuis des décennies, d'affirmer que le privé est moins cher que le service public, c'est faux, qu'il est plus simple à mettre en œuvre, c'est faux, et qu'il est plus efficace, c'est faux. Sur un plan purement budgétaire, si un délégataire peut se rémunérer, la commune le peut aussi. Si un délégataire peut investir puis dégager des bénéfices, la commune le peut aussi. Nous pourrions en outre créer des postes publics pérennes et financés d'agents plus à même d'assurer que le public cette mission délicate. La municipalité est davantage en mesure de gérer des négociations et des situations complexes. Il s'agit, je le répète, d'une mission liée à la sécurité, par définition sensible, source de conflits, qui ne peut être confiée, selon nous, qu'à la puissance publique. Il ne faut pas contribuer au flou ni au ressentiment, par exemple, suscité par le gouvernement, avec la mise en place de voitures radar banalisées privées dans certains départements depuis 2018. À ce compte-là, pourquoi pas remplacer non plus les agents de surveillance de la voie publique avec des abus potentiels de course aux chiffres. Nos concitoyennes et nos concitoyens ne comprendraient pas cet affaiblissement de l'action publique au profit d'une entreprise qui donnerait l'impression de faire du profit sur leur dos. Donc nous allons voter contre cette délibération.
Oui, monsieur le maire, quelques précisions.
Merci, monsieur Lacabane, pour l'enregistrement.
Oui. Merci, monsieur le maire. Quelques précisions pour monsieur Rouget, qui reste sur une théorie toute dogmatique, mais qui n'est pas conforme à la réalité. En fait, la région a la gestion en régie. Pour faire simple, on ne peut pas s'y engager pour plusieurs raisons. Bon, j'ai essayé de faire un résumé de la délibération, mais je vais vous donner effectivement les vraies raisons. Pour assurer l'exploitation d'un service de fourrière automobile en régie directe, il serait nécessaire de disposer immédiatement d'une emprise foncière que nous n'avons pas, qui soit clôturée, suffisamment sécurisée, suffisamment importante pour recevoir et conserver les véhicules. Je vous rappelle qu'il y a 600 véhicules par an qui sont enlevés. Sur cette même emprise, de disposer de locaux pour accueillir les automobilistes, le personnel dédié à la mission, il est également nécessaire d'assurer une mission d'investissement important pour l'acquisition des moyens matériels. Il ne vous a pas échappé que pour enlever des véhicules, il faut du matériel. Et ce matériel, actuellement, nous ne l'avons pas. Donc il faudrait un investissement considérable pour acheter des véhicules. De plus, quand vous dites que les agents seraient capables de le faire, il faudrait que ces agents qui agiraient en régime municipal soient mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour évacuer tout type de véhicules dans n'importe quelle condition, chose que nous n'avons pas techniquement les moyens de faire. Donc, pour mobiliser des moyens humains aussi importants, vous ne voulez pas augmenter les impôts, expliquez-nous comment vous voulez faire. Je ne vois pas comment on peut répondre à ce cahier des charges. De plus, vous mettez en cause des fourriéristes qui actuellement font d'ailleurs le travail très bien. Les voitures sont verbalisées, elles sont demandées pour être évacuées. C'est ce qui se fait actuellement. Je ne vois pas où est le problème. Que les gens contestent le fait que leur véhicule était mal garé, ça s'est toujours fait, mais la force doit rester à la loi et les véhicules seront enlevés, que ce soit par une régie municipale ou par un fourriériste, comme c'est le cas actuellement.
Monsieur Rouget, je ne pouvais être d'accord avec vous que sur le premier paragraphe. Vous parliez du désengagement de l'État. Je suis d'accord avec vous. Sur le reste, moi, je considère que nous n'avons ni les compétences, ni les moyens pour assurer seul ce genre de prestation, qui est quand même une prestation très particulière, qui implique une technologie, du matériel, une disponibilité, comme vient de le dire M. Lacabane. Nous ne disposons pas de tout cela. Et quand il y a des services qui sont organisés pour ce genre de prestations, il n'y a rien d'anormal que nous envisagions de faire appel à eux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Je soumets cette proposition à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir, lèvent la main. Votez contre. 1, 2, 3, 4, 5 contre. Parfait, proposition adoptée.